Et oui, vous êtes dans Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on reçoit aujourd'hui, pour la deuxième fois, on en est ravis, Yulia Gousseva qui fait partie du centre Praxis à Moscou. Alors bah déjà Yulia, justement, qu'est-ce que le centre Praxis ?
Bonsoir. Notre centre Praxis, c'est le groupe qui unit les journalistes, les historiens, les militants de gauche de plusieurs tendances, mais qui sont d'accord avec nos principes socialistes antitotalitaires. Il y a des anarchistes là-bas, il y a des marxistes indépendants, mais pas des membres des partis. Moi, personnellement, je suis anarcho-syndicaliste. Je travaille dans ce centre. Je participe à d'autres campagnes qui se déroulent à Moscou malgré les situations.
Oui. Et on disait tout à l'heure en rigolant que si on veut trouver des gens de gauche à Moscou, c'est au centre Praxis qu'il faut aller.
Ouais. Parce que notre centre, il dirige la bibliothèque Victor Serge. C'est une bibliothèque de la littérature de gauche en plusieurs langues et en même temps maintenant c'est un lieu de rassemblement de plusieurs groupes de militants. Les militants de droits de l'homme, des libertaires, des écologistes. C'est un lieu assez animé, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et c'est bien. Bon.
D'accord. Donc, on va revenir parce que tu étais venu nous parler il y a 2 ans, exactement en janvier 2009. Tu étais venu nous parler notamment de l'assassinat de Stanislas et Anastasia, qui donc ça fait 2 ans là. C'était le 19 janvier 2009. Est-ce que tu peux nous rappeler qui étaient Stanislas et Anastasia?
Stanislas Markelov, c'était un avocat, défenseur des droits de l'homme et socialiste de conviction. Notre camarade aussi, on le connaissait très bien. Il a défendu, par exemple, les Tchétchènes victimes de la guerre. Mm-hmm. Il a défendu les familles des antifas tuées par les nazis, etc. Donc, il était non seulement un avocat, mais aussi un militant. Anastasia, c'était une jeune journaliste au journal indépendant qui s'appelle «Новая газета», qui était libertaire aussi. Après la conférence de presse que Stanislas a tenue, ils sont rentrés ensemble et ils ont été tués à la rue par balle. Stanislas était mort sur place et Anastasia était mort à l'hôpital quelques heures après. Bien sûr, cet assassinat a été commis par les néo-nazis. Et après, l'instruction a été menée, plus ou moins, on a arrêté 2 personnes. L'instruction prétend que l'un d'eux, le tueur, et sa complice. On n'a pas trouvé leur complice, donc... mais le procès doit commencer dans les jours à venir, au commencement de février, on va voir. Mais bien sûr, ce ne sont pas des assassins individuels qui ont commis. Il y a eu d'autres qui ont commandé peut-être ou qui étaient derrière les tueurs et qui n'en étaient jamais trouvés.
Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même pas les premiers, c'est pas les seuls, malheureusement.
Oui, ils n'étaient pas les seuls parce que cet assassinat était bien préparé. C'était en plein jour et puis l'assassin est parti comme ça dans le métro et personne ne l'a arrêté. On a suivi de près Stanislas et Anastasia.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est malheureusement pas les premiers journalistes ou antifascistes qui se font assassiner en Russie.
Oui, il y a eu d'autres. Il y a eu malheureusement davantage. Il y a plusieurs victimes parmi les antifascistes militantes qui ont été tuées par les nazis. Il y a eu des journalistes qui ont été tués ou gravement blessés ou battus. Et c'est quand même multiplié, même ces derniers temps.
Et Donc, en plus, je crois me souvenir que effectivement, au moins Anastasia avait déjà été menacée avant malheureusement.
Oui, Stanislas a reçu aussi des menaces à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il était avocat et parce qu'il était militant aussi. Il a eu des convictions antifascistes qu'il n'a pas cachées.
Mmh. Et est-ce que du coup, depuis cet événement, ça fait 2 ans, est-ce qu'on en sait plus justement sur... on espère que le procès fera un petit peu de lumière, même
oui,
si j'ai
sûr,
pas l'impression.
On l'espère. Mmh. On l'espère bien parce que peut-être ça va arrêter d'autres agresseurs si les vrais tueurs seront mis en prison.
Mm-hmm. Mais le les comment dire les bon on peut pas savoir s'il s'agit de des vrais tueurs, mais est-ce que tu penses que le procès s'oriente vers une recherche aussi des commanditaires éventuels, s'il y en a.
Ce serait très bien si on va rechercher les commanditaires. Mais en fait, je ne sais pas, c'est difficile de prévoir comment ça va dérouler ce procès. Parce que même parmi la police, il y a beaucoup de policiers qui se sympathisent avec les nationalistes. Et parmi les juges, peut-être, on ne sait pas.
Mmh.
De plus, ce sera un procès politique, bien sûr, à cause de l'engagement de Stanislas et d'Anastasie, à cause des convictions politiques et des accusés.
Mmh. Mais je crois savoir qu'il y a un comité de soutien qui s'est monté, justement, qui s'appelle le comité du 19 janvier. Est-ce que, enfin, c'est un comité de soutien russe ou international ou...
Je crois que c'est juste ce comité de soutien.
Mais donc, est-ce que tu penses que... Enfin, je ne sais pas si tu les connais bien, mais est-ce que tu penses qu'ils vont...
Je ne les connais pas bien. On participe aux mêmes actions avec eux, mais bon...
Est-ce que... j'imagine qu'eux vont essayer de mettre la dimension politique en avant pendant le procès.
Oui, bien sûr, on va espérer, parce qu'il y a des défenseurs de droits de l'homme qui sont là-bas et qui vont essayer de pousser les choses en avant, de faire évoluer le procès, mais on va voir, en fait.
Mm-hmm. Ouais. Alors, ça c'est... On espère qu'on aura plus d'informations d'ici le début du procès et peut-être la fin. En tout cas, on va revenir sur une autre affaire avant de revenir sur précisément les mouvements d'extrême droite, et parce qu'il y a eu tout un tas d'événements dramatiques qui se sont passés à la fin de l'année 2010. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant ça, on voulait évoquer quelque chose dans lequel tu es bien impliqué, qui est la bataille de Khimki.
Ouais.
Alors Khimki, qu'est-ce que c'est Khimki? C'est une ville et
Khimki, c'est une ville, c'est le banlieue nord de Moscou. Qui est à la limite de Moscou. C'est une ville de plusieurs dizaines d'habitants. Il y a une forêt dans cette ville qui était malheureusement importante non seulement pour la ville, mais il a joué le rôle de poumon vert de Moscou aussi.
Mm-hmm.
Parce que Moscou, il y a peu de forêts, peu d'arbres, etc. Donc, cette forêt était importante pour toute la population de la capitale et non seulement de banlieue. Les autorités ont eu un projet de construire une autoroute payée de Moscou à Saint-Pétersbourg. Et selon un projet adopté d'avance, pour construire cette autoroute, on a dû découper une grande partie de ce forêt. Donc, il y a eu d'autres projets, mais ces projets ont été mis à côté. Et les autorités ont fait pression pour ce projet-là, qui est en fait réalisé par une compagnie française qui s'appelle Vinci, compagnie qui dirige les parkings ici en France. C'est Vinci qui est complètement impliqué dans cette affaire, qui avec ses filiales et ces sociétés de sous-traitance qui a commencé le découpage. On a découpé un grand morceau, 6 kilomètres en largeur, non seulement pour faire l'autoroute, mais surtout pour construire les infrastructures, donc les supermarchés, etc. C'est pour ça donc les autorités ont voulu détruire le forêt. Mm-hmm. Et la population locale, les habitants de banlieue et du nord de Moscou, ils se sont dressés contre ce projet, contre ce découpage. Il y a un mouvement autonome de tendance écologiste qui était né dans la ville. Il y a eu beaucoup de journalistes locaux qui ont participé à ce mouvement, des journalistes indépendants, à cause de ça, mal terminé pour certains d'eux. Il y a eu des personnes qui étaient tuées et d'autres qui étaient gravement blessées. Et maintenant, l'un d'eux, un militant écologique, Constantin Fitis, fait toujours dans le coma. Il était battu en novembre. Il y a d'autres, Mikhail Bekitov, qui était le rédacteur d'un journal indépendant de la petite ville de Khimki. Il était gravement blessé. Et maintenant, il est handicapé. Il ne peut ni marcher ni parler.
Oui. Alors, donc, oui, là, on se rend compte que un petit, on pense par exemple aux batailles qu'il y a eu. Ça me fait penser à ça parce que c'est une question qui démarre pareil, un petit peu sur sauver des arbres au départ et puis s'opposer contre un projet immobilier. Ça me fait penser à, en France, à Grenoble, le parc Paul Mistral, enfin le stade qui a été construit sur le parc Paul Mistral. Mais en France, il n'y a pas de mort quoi, dans ce genre de lutte. Et là, c'est particulièrement violent. La répression et l'écrasement de l'opposition de la population. Déjà, ce qu'on peut rappeler, c'est que la population de Khimki a un petit peu appris par hasard ce projet. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas été consultés, que je sache.
Ah non, la population n'a pas été consultée. Les autorités ont fait ce qu'ils voulaient. Mais la population a commencé à protester, notamment à la fin juillet, à la deuxième moitié de juillet.
Donc là, on est en quelle année ?
L'année dernière, 2009. L'année 2010.
2010, pardon. Oui.
C'était l'année 2010. Les écologistes de Khimki et de Moscou, ils ont organisé un campement pour arrêter, pour empêcher de couper le forêt. Et c'était la compagnie sous-traitante qui s'occupait de ce découpage, on dit, déforestation, qui s'occupait de la déforestation, qui invitait les nazis pour protéger les ouvriers. Les nazis ont intimidé les écologistes, etc. Et la police, ils n'ont battu personne, mais ils ont l'air très agressifs. On a appelé la police, et la police a arrêté plusieurs écologistes. Certains d'eux ont été battus, ainsi que autant que des journalistes qui étaient sur place. Et tant qu'il y a eu des journalistes qui ont écrit sur ça dans les journaux, ça a provoqué une riposte des antifascistes. Mm-hmm. Qui, auparavant, ils ne s'intéressaient pas trop aux questions écologiques, mais dès qu'ils sont connus que c'était les fascistes qui vont attaquer les écolos, alors le 28 juillet, c'était une manifestation spontanée qui était organisée par les antifas. Des centaines de jeunes se sont manifestés à travers la ville de Khimki. Ils ont fait une petite manif en face de la municipalité. Et il y a eu une dizaine de personnes qui ont jeté les pierres et qui ont brisé quelques vitres et qui ont laissé des graffitis souvent le forêt, rues, etc. sur les murs. La police n'a pas intervenu parce que c'était une grande manif de plusieurs centaines de jeunes qui étaient là. La police les a laissés partir, ils sont partis pour Moscou. Personne n'a été arrêté sur place, mais au lendemain, la police a arrêté deux porte-paroles du mouvement antifasciste qui s'appelait Alexei Gaskarov, il était libertaire aussi, militant libertaire, et Maxim Solopov, militant antifasciste. Donc, tous les deux n'ont pas participé aux violences, n'ont pas brisé les vitres, etc. Et Alexei était même là comme journaliste. Il a eu comment dirais-je...
Il a été blessé ?
Non, il n'a pas été blessé, mais il a eu tous les documents qu'il était journaliste, etc.
Ah, oui,
donc,
pardon.
Il était là pour écrire un article, etc. Donc, ces deux personnes, on était arrêtées avec des violations. La loi a été violée lors de leur arrestation. Les perquisitions ont été faites sans témoin, etc. Donc, elles ont été mises en prison. Et cette affaire a mobilisé, à mon avis, c'était les meilleures forces des militants de gauche, des droits de l'homme de Moscou. D'abord, on a fait une manif en faveur d'eux. Une fois, c'était refusé par les autorités. Mais l'autre fois, c'était le 7 août. Et bon, cette manif a été permise à quelques 300 de personnes qui ont pris part. Mais il faut compter que même ça, ça a demandé du courage parce que c'était la chaleur, c'était le jour un des plus chauds. À 40 degrés, il est fumé partout, mais les gens sont venus manifester en faveur de leurs camarades pour leur libération. Mmh. Et cela a depuis ça a commencé cette campagne à la défense des otages. On les appelait les otages de Khimki parce que les deux camarades ont été pris en otage par les autorités. C'était clair. Donc, c'est pourquoi on a décidé de faire le site web, d'animer les campagnes en leur soutien. On a appelé au jour international de solidarité, journée internationale d'action. On a collecté les signatures en faveur de leur libération et aussi pour mettre un terme à l'enquête, pour fermer l'enquête sur cette manif, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été poursuivis en justice, mais qui ont réussi à se cacher. Et en fait, cette affaire a provoqué aussi une vague de répression. Beaucoup une centaine de militants antifascistes, même les amateurs de musique hardcore, ont été arrêtés par la police, ont été interpellés. Par exemple, les gens qui se sont allés au concert de la musique des groupes antifa, ils ont été arrêtés par la police, ils ont passé la nuit, ils ont été tabassés, beaucoup d'eux. On les a demandé qui était l'organisateur de cette manif à Khimki, etc. Et bon, ces jeunes, ils n'étaient pour rien. Ils ont été mis en liberté. Certains d'eux, même, ils ont été tabassés, ils ont des jambes cassées, etc. Donc, c'était passé comme ça. Et c'était tout à fait illégal, bien sûr.
Donc on voit bien que dans les forces, donc on va appeler ça les forces de répression, en fait au moins trois acteurs qui sont les entreprises donc ou les sous-traitants de Vinci qui sont censés effectuer le travail, l'État. Le pouvoir local ou national, et donc avec la police et les néo-nazis.
Ouais.
Et tous ces gens-là donc travaillent ensemble pour cette autoroute.
Oui, pour cette autoroute. Donc, ils ont à peu près peut-être les mêmes intérêts ou les intérêts se coïncident. Mais cette affaire a provoqué une vague de protestations. Il y a eu d'autres manifestations organisées à Moscou où cette campagne à la défense des otages de Khimki a participé, mais aussi d'autres forces, les écologistes, tant locaux que Panjus et des militants des droits de l'homme, etc. Donc, on a fait plusieurs manifs. La chose importante, c'est que les intellectuels, les musiciens, etc., ont soutenu ce mouvement. Par exemple, le célèbre chanteur rock Yuri Shevchuk, le leader du groupe très populaire DDT, a soutenu le mouvement. Et il a essayé même d'organiser un manif-concert à Moscou en faveur du forêt de Khimki. Mais la police a interdit d'utiliser les instruments de musique, les trucs sonores, etc. Donc, elle a chanté en pleine voix.
Et c'est légal d'empêcher un concert comme ça?
Il a demandé la permission, on a permis, mais au dernier moment, la police a interdit d'utiliser les trucs sonores. Donc, il y a eu une foule de quelques milliers de personnes qui est venu pour entendre la musique et pour exprimer son contestation. Mais au moins, les gens sont venus, les gens ont protesté comme ça, même s'ils n'ont pu rien entendre. C'est déjà pas mal. Et ces journées de solidarité internationale ont eu leurs fruits, en fait.
Oui.
Bon, on a essayé de faire pression sur la justice. Après avoir passé plus de 2 mois en prison, les 2 garçons ont été mis en liberté. Malheureusement, c'est encore une liberté provisoire en attendant du jugement qui doit avoir lieu en février. Mais le fait de leur mise en liberté leur donne plus de chances d'être acquittés.
Ah bon?
Oui, parce qu'ils sont en fait menacés de 7 ans de prison pour organisation des attroupements séditieux ou un truc comme ça. Donc, c'était déjà une victoire, même si c'était une victoire partielle. Parce que les gens qui ont participé à cette campagne, ils ont mis tous leurs efforts, leur force, leur dévouement. C'était passé comme ça. C'était des bénévoles. On a animé le site web en plusieurs langues. On a organisé plusieurs actions. On a fait circuler l'information partout où on peut, etc. Donc, on a fait tout leur possible, en fait.
Pour ça.
Mais par contre, cette histoire de forêt, pour le moment, elle a mal tourné. Parce que le gouvernement et même le président, ils ont décidé de continuer, de revenir au plan qui était initial. Et donc, maintenant, la construction bat son plein et on n'a pas réussi à sauver la forêt. Ça, c'est bien.
On peut faire de la radio, par exemple, déjà. Donc, on est sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on est toujours en compagnie de Yulia Gousseva du centre Praxis à Moscou. Et on était en train de parler de l'affaire de la bataille de Rimki. Donc, cette ville qui abrite une forêt donc dans la banlieue nord de Moscou. Donc, tu étais en train de nous dire que... que la bataille, en tout cas pour la forêt, était perdue, puisque les travaux ont repris ont repris de plus belle. Mais la bataille politique n'est pas terminée, puisqu'il y a au moins le procès qui va des deux inculpés qui va avoir lieu en février, comme tu disais. Mais est-ce que... Quels sont les points positifs aussi, quand même, si on peut en trouver, de cette bataille ? Parce que ça a quand même été assez large comme mobilisation.
Oui, c'était assez large. Même, j'ose dire qu'avant, certaines forces libertaires de gauche ne faisaient pas beaucoup de choses. C'était un peu endormi. Mais cette bataille, c'est mon impression personnelle, elle les a un peu réveillées. Mm-hmm. Donc, le bilan négatif, c'est la perte du forêt, bien sûr. C'est le fait que l'enquête criminelle est poursuite, que le procès aura lieu, malgré les protestations, etc. Mais il y a aussi le bilan positif. C'est que, les camarades sont maintenant en liberté. Mais d'autres choses, c'est que beaucoup de nouveaux gens qui, depuis longtemps, n'ont participé à aucun mouvement ou même jamais n'ont participé, c'est le cas des habitants de Khimki, ils se sont organisés, ils se sont essayés de faire quelque chose ensemble malgré leurs divergences politiques possibles. Et à mon avis, c'est très important parce que cela a permis, cette campagne a permis à beaucoup de gens de surmonter leurs divergences d'organiser, de faire la chose, de faire bouger la chose aussi. Maintenant, il ne faut pas se calmer, il faut continuer la lutte parce que le procès sera en cours bientôt et c'est difficile de prévoir ces résultats. On espère à l'acquittement, mais on ne sait jamais parce que ce sera encore une fois. Ce sera une décision politique et non judiciaire. Mm-hmm. Les militants de campagne tiendront les lecteurs de leur site, d'autres gens au courant de ce qui se va passer, mais il faut se préparer à la lutte. Au pire des cas, ce sera une condamnation. Il faudra continuer à lutter pour la révision pour la cassation, la révision du procès. Et un autre mot d'ordre, c'est de cesser l'enquête criminelle sur cette manifestation à Khimki.
Mm-hmm. Mais est-ce que du coup, comme ça, comme tu disais, ça a réveillé des forces qui s'ignoraient finalement, ça a amené des gens à se mobiliser qui n'étaient pas forcément mobilisés sur d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose que ceux qui se sont battus dans ce mouvement envisagent ? Est-ce qu'on envisage justement de donner suite au-delà de cette question ?
Oui, je l'espère. Je l'espère que même si dans la solution, ça sera bien terminé, on gardera des rapports, on fera d'autres choses ensemble, non seulement au domaine écologique, mais aussi au domaine politique, parce qu'on s'est vu. On s'est vu dans l'activité, on se connaît, on se connaît mieux et il y a d'autres problèmes qui demandent une résolution en Russie, bien sûr, il y a pas mal de problèmes malheureusement. Donc j'espère que nous séparerons après ça et nous continuons de faire des choses ensemble, même malgré les divergences politiques qui existent toujours, mais bon.
Oui. On peut avoir de l'espoir sur de futures mobilisations. Enfin, en tout cas, on peut espérer que le mouvement et les liens perdurent. Alors, justement, la situation, disons, généralement politique en Russie, on a bien vu en t'entendant, et puis on le sait, il y a une grande, grande importance, et j'ai l'impression, enfin, qui grandit visiblement, de l'extrême droite et particulièrement des mouvements néo-nazis. Donc, ça veut dire néo-nazis, ça veut dire simplement que déjà, c'est des gens violents. Et qui n'ont pas peur, enfin, qui ne cherchent pas à créer un parti légal pour aller aux élections. Ce n'est pas du tout la question.
Bien sûr.
Voilà. Et qui donc s'attaquent physiquement Notamment aux antifascistes, bien évidemment, mais pas seulement. Et on voit bien qu'il y a une vraie collusion aussi avec, avec le pouvoir. Sur cette affaire de Kim Ki, c'est évident, en tout cas. Et donc, est-ce que tu pourrais, parce que justement, ceux qui ont un peu suivi, en décembre dernier, il y a eu donc une rixe entre des groupes de supporters de football qui sortaient d'un match de foot et ou qui y allaient, je ne sais plus, et un des garçons qui se sont battus est mort. Donc explique-nous un petit peu cette histoire-là.
C'était au commencement de décembre, au nord de Moscou. Il y a eu une bagarre entre deux groupes de jeunes. C'était une bagarre pour rien, pas par des raisons politiques. Lors de ça, un des supporters de l'équipe football Spartak, il a été tué par un Caucasien. Et puis la police a mis en liberté l'assassin. On ne sait jamais par quelle raison. Et tous ces deux événements ont provoqué les montées néonazistes. On n'a pas d'information que ce garçon qui a été tué était néonazi, il était tout simplement un supporter de football. Il n'a pas combattu pour des idées nazistes contre les Caucasiens, etc. Mais pas du tout. Mais sa mort a été cyniquement exploitée par les forces néonazies, qui ont essayé d'organiser des manifs de protestation en disant que c'est contre la police qui a relâché l'assassin. Mais en fait, c'était dirigé contre tous les Caucasiens, tous les émigrés, les antifas, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Sous les mots d'ordre xénophobes. Et c'était... il y a eu une manif d'abord au nord de Moscou, au lieu de l'assassinat, et puis des groupes de néonazis se sont dirigés vers le Kremlin. Et là, c'est le lieu fréquenté par les moscovites. Il y a un centre commercial, etc. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui étaient sur place, beaucoup d'eux ont adhéré à ce mouvement aussi. Ils ont commencé à faire des égales et ont commencé à crier Moscou, Moscovite, à bas les immigrés, etc., d'autres trucs du genre. Et c'était une foule très violente, très agressive. C'était en face du Kremlin qu'on a crié ces mots d'ordre. Et la foule, la police était là. Et la foule a essayé de repousser la police pour aller vers le Kremlin, ou vers la salle de manège aussi, une salle d'exposition. Et c'était une foule, d'après les estimations, de 5 à 7 000 personnes qui étaient rassemblées sur place, parce qu'il y a eu des gens qui étaient déjà là, il y a eu d'autres qui sont à flux. Il y a eu des bagarres parce que cette fois, la police, c'était à côté de Kremlin, donc la police a eu peur, elle a voulu protéger le lieu, etc. Donc il y a eu des bagarres très violentes. Entre les policiers, les gens qui s'étaient rassemblés, c'était surtout les jeunes. Il y a eu beaucoup de filles qui ont crié tout ça. Et c'est, c'était... Et en même temps, ceux qui ont le moins de chance, c'était les émigrés qui étaient là, par leurs propres raisons. Certains émigrés ont été battus sur place. Et la police même a essayé de les protéger, mais sans succès. La police a repoussé un peu la foule. La foule s'est écoulée dans la station de métro. Et là, c'était vraiment un massacre, ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont arraché les trains, se sont arrêtés à la station, comme toujours. Et ces néonazis ont arraché les gens qui ont l'aspect immigré. Les noirs, etc., des wagons, ils les ont passés sur place et... D'après les journaux, une de ces personnes a été mort suite à ses blessures.
Alors, il faut un petit peu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas bien la Russie et pas bien la région. C'est quoi les Caucasiens? Enfin, pour un Russe, qu'est-ce que ça veut dire un Caucasien? Qu'est-ce que...
Ce sont déjà gens originaires du Caucase, mais en fait, beaucoup d'eux sont moscovites et parlent russe et se sentent russe. Parfois, ils ont des cheveux noirs, mais pas toujours. Oui, ce sont des gens comme les autres. Parfois, ils sont musulmans, parfois chrétiens, mais bon, ça n'a rien à voir.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le Caucase, il y a par exemple la Tchétchénie.
Ah, ce sont les Tchétchènes et d'autres, les gens issus d'autres républiques du Caucase. Le problème, pourquoi beaucoup d'eux se sont émigrés à Moscou, parce que au Caucase, à cause de cette guerre en Tchétchénie, par d'autres raisons, il y a beaucoup de chômage, il y a peu de place, donc pour les gens, il y a peu de possibilités de se réaliser. Donc ces gens-là vont au Moscou, et là ils trouvent le travail, ils travaillent quelque part, ils font leurs études, etc. Donc ils trouvent leur place.
Mais justement, est-ce que cette hostilité face aux Caucasiens, alors bon. On imagine que, enfin, dans ce que tu décris, bon, il y a une espèce d'idée raciste de toute façon.
Oui, c'est une sorte de racisme, de xénophobie plutôt, c'est la haine à l'étranger, n'importe qui, soit elle est issue au Caucase du Nord, qui fait partie de la Russie, soit elle est issue au pays étranger, de l'Asie centrale ou de l'Afrique même. C'est égal. Ce sentiment de xénophobie est très répandu. Et avant, c'était surtout dirigé contre les Juifs, mais maintenant, contre les Caucasiens. Et je pense que c'était les deux guerres en Tchétchénie qui ont poussé beaucoup ce sentiment.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui.
Ouais. Donc, beaucoup de gens sont contaminés par ça, et surtout même la jeunesse, parce qu'avant, avant l'événement de Poutine, la majorité des gens étaient internationalistes, en fait, spontanément. Mais maintenant, le patriotisme est devenu la mode. Il y a des gens qui se disent patriotes, ne comprenant pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est plutôt la mode, c'est une mainstream, c'est une tendance générale. Et tendance poussée, beaucoup provoquée, beaucoup, et protégée même par les autorités. Parce que c'est des opinions, une politique qui s'impose partout, le patriotisme de la grande puissance, de notre grande Russie, etc. Donc, il y a des organisations politiques de jeunesse de masse organisées par les autorités, qu'on appelle la jeunesse de Poutine. Il y a plusieurs organisations comme ça. Ils sont tous plus ou moins contaminés par cette xénophobie et même du nationalisme. Certains d'eux se disent ouvertement nationalistes ou staliniens. D'autres ne le disent pas ouvertement, mais en fait, leur comportement est tout à fait le même. Ce processus, c'est le pouvoir qui a sa responsabilité dans ce qui s'est passé.
Est-ce que tu ne penses pas justement que ce que tu as dit, que bon, l'élément déclencheur, c'est donc ce meurtre cette mort dans une bagarre de ce garçon supporter du Spartak, donc par un autre garçon caucasien. Tu as dit, il a été relâché, on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que tu ne crois pas que c'est volontairement pour instrumentaliser le...
On ne sait pas. Ça peut provoquer le mouvement. Oui, parce que ces événements comme ça, les pogroms au centre de Moscou, et aussi l'attentat récent qui a eu lieu à l'aéroport de Modiedov, qui est le principal aéroport de Moscou, d'après les nouvelles, c'était réclamé par les islamistes. Donc, on ne sait pas, mais... le principal, c'est que ça faisait plusieurs dizaines de morts et de blessés et a profondément choqué la population. Ça peut donner aux autorités un prétexte de renforcer le régime policier, de donner encore plus de force à la police, aux services secrets qui ont déjà pas mal de force.
Oui, mais... Je crois qu'on a compris.
Oui, mais ils demanderont davantage. Ils le recevront. Par exemple, après un des attentats terroristes, Poutine a aboli les élections de gouverneur. Donc, il a restreint la démocratie en Russie. Ici, les Français m'ont demandé, vous ne lisez pas les gouverneurs, les maires, etc. Mais comment ça peut-il? Mais oui. C'est comme ça, je suis maintenant.
Ouais.
Et maintenant, ça, bon, après un autre attentat, après les explosions au métro de Moscou, il y a 10 mois, on a donné plus de force à la police. On a donné plus de...
Plus de moyens.
Plus de moyens, oui, à la police. Donc maintenant, la même histoire pourra se répéter, bien sûr. Surtout si on pense qu'on est à la veille des élections parlementaires qui auront lieu en ce décembre et présidentielles, les plus importantes, qui auront lieu en mars prochain.
Ben ça, on va en reparler dans quelques minutes. Vous êtes bien dans les oreilles, loin du front, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On est toujours en compagnie de Yulia Gousseva du centre Praxis à Moscou. Et on évoquait effectivement les derniers événements liés aux néo-nazis et les pogroms qui ont eu lieu donc anti tout ce qui est considéré comme caucasien ou pas russe, en fait, hein, tout ce qui diverge pour ces gens-là. Et donc, tu me disais hors micro que ça continue, qu'il y a toujours des meurtres, soit d'immigrés, soit de caucasiens. Enfin...
Oui, des meurtres continuent et même se multiplient. Maintenant, et après des pogroms, il y a eu des cas de meurtres de gens immigrés de l'Asie centrale, etc., qui n'étaient pas réclamés par personne. Et la police n'a pas trouvé les tueurs. Mais évidemment, c'était des victimes des nazis parce que c'était pas les bandits, c'était simples travailleurs qui ont venu à Moscou pour travailler. Et bon, ils ont trouvé leur mort. Il y a aussi les meurtres des Antifa. Il y a eu quelques cas. Les tueurs n'ont pas été trouvés, mais bon, les gens étaient. Bon.
Oui, mais du
donc
coup...
Donc, c'est maintenant dangereux de devenir militant antifasciste à Moscou.
Oui, je crois que ça l'a
toujours. Il y a un danger non seulement du côté du fascisme, mais aussi du côté du police. C'est ce qu'on a dit récemment.
Oui.
Mais heureusement, il y a des jeunes qui se réclament de l'antifascisme et du mouvement de gauche et du mouvement libertaire en général. Et... Ça donne de l'espoir, en fait.
Oui, il est nécessaire surtout de vous soutenir un petit peu de loin aussi.
Oui, j'imagine. C'est nécessaire. Et l'affaire de la bataille de Chim, qu'il a montré, c'est grâce au soutien international que cette affaire a eu beaucoup de l'écho partout dans le monde. Et grâce au soutien international, grâce aux lettres, aux pétitions de l'étranger, que peut-être les camarades ont été mis en liberté. Ah, parce que le gouvernement russe qui coopère avec la société Vinci, etc., il ne veut pas de scandale international.
Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que la pression internationale est toujours...
Oui, c'est nécessaire. Bon.
Mm. Alors, pour un petit peu conclure ce panorama... pas très réjouissant, même si on est content quand même qu'il y ait quelques militants de gauche et antifascistes qui restent debout en Russie.
Mais pas quelques, mais non sans plusieurs.
Ah ouais, pas mal quand même. Non, mais je veux dire... donc tu évoquais le fait que bah, y a des élections qui se profilent l'année prochaine et donc quelles sont les échéances qui arrivent, quelles sont les élections qui arrivent donc
bon, d'après les estimations, ce sera le parti pro-gouvernemental qui aura la grande majorité, mais peut-être une majorité écrasante dans le Parlement.
Donc c'est les élections au Parlement.
Oui. Même si beaucoup de gens, même si l'opinion a changé un peu dans la majorité des gens, avant, ils ont sincèrement soutenu ce parti.
Mm-hmm.
Et il a eu vraiment la majorité. Et maintenant, c'est plutôt une autre tendance de critiquer les autorités, de ne pas voter pour le parti de pouvoir, soit de ne pas voter du tout, soit de voter pour les partis soi-disant d'opposition, plus ou moins. Les gens ne passent pas encore des paroles à l'action. Ils critiquent entre eux, ils critiquent beaucoup dans l'Internet, dans leur blog, dans leur page perso, etc. Ils critiquent le pouvoir. C'est maintenant une sorte de la mode même, et ce n'est pas bien commode dans notre situation. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, il faut franchir encore un pas qui n'est pas fait, mais on ne sait pas. Peut-être quelques événements va pousser les choses plus loin. Peut-être non, on ne sait pas.
Mais par exemple,
en Ukraine, il y a 6 ans, il y a eu une révolution orange qui était un peu inattendue. Mais les gens étaient à tel point, ils ont eu marre de ce qui s'est passé, qu'ils sont sortis spontanément dans la rue, etc. Et ils ont changé un peu. Bon, et l'Ukraine maintenant, même si tous les problèmes ne sont pas résolus, c'est un pays plus démocratique, beaucoup plus démocratique que la Russie. Il n'y a plus de liberté.
En Ukraine.
En Ukraine, oui. Mmh. Oui, certainement.
Mmh.
Même s'ils ont leurs problèmes aussi qu'il ne faut pas négliger. Peut-être en Russie, ça passera la même chose, mais en fait, pour que ça se passe, il faut non seulement les résolutions des gens, mais il faut qu'ils conçoivent un projet pour remplacer ce qui existe, pour qu'il y ait quelques buts, même général, mais début concret,
mm-hmm.
Pour obtenir, pour qu'ils comprennent qu'ils veulent gagner et pourquoi. Donc ça, ce n'est pas encore le cas.
Ouais, est-ce qu'il n'y a pas encore de contrepoids, en fait, à...
Un contrepoids politique, non, mm-hmm. non. Parce qu'il ne reste que cette partie, par exemple, mais bon, qui ont le champ d'action très restreint, etc. Et donc, moi, comme libertaire, je ne pose pas trop d'espoir sur les partis politiques, surtout des partis parlementaires. Mais on va voir. Mais pour la Russie, ce serait un progrès d'avoir les positions au Parlement, etc., des discussions au moins, et que les gens sachent ce qui se passe. Parce que ça pourra donner à réfléchir. aux gens. Le mouvement syndical est aussi dans une situation très difficile, mais il y a au moins les syndicats indépendants, il y a les militants ou ouvriers militants, qui sont sincères, qui essaient vraiment de faire quelque chose. Donc, il y a des forces, mouvantes qui ne sont pas tout à fait réprimées. Ça donne de l'espoir, mais pour les élections prochaines, il ne faut pas être trop optimiste, en fait.
Ouais,
pour les élections présidentielles, soit ce sera Medvedev, soit ce sera Poutine, ils mèneront à peu près la même politique. Ce sont les deux visages du même contenu, quoi.
Donc, on n'est pas encore débarrassé de Poutine.
Mais non. Il y a une grande probabilité qu'il se présentera aux élections. Et on ne sait pas s'il gagnera ou non. Ça, on ne sait pas. Parce qu'il y a des groupes de bureaucrates qui le soutiennent, des groupes de fonctionnaires. Il y a d'autres groupes assez forts qui soutiennent par contre Medvedev. Donc, ils ont les intérêts un peu différents. Donc, ce n'est pas entre ces deux personnalités qui sera le clivage, mais entre ce groupe.
Bon, Julia, l'émission touche à sa fin. On te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios.
Et merci de me donner cette possibilité de parler à l'audience française. Je voudrais appeler les interlocuteurs de radio de s'intéresser le plus à ce qui se passe en Russie parce qu'on a besoin de votre soutien dans notre activité.
Justement, pour le soutien et puis pour les informations, vous pouvez aller notamment sur la bataille de Khimki, aller sur le site www.khimki, alors c'est Khimki Battle, tout attaché, battle.org, khimkibattle.org. Également, un site de soutien aux antifascistes russes qui donc hébergé par les amis de Samizdat. Donc, vous pouvez aller sur l'adresse, donc sans les 3W, vous écrivez antifa au pluriel russe, au pluriel, tout attaché, .samizdat.net. Si vous cherchez antifa russe, vous trouvez facilement sur un moteur de recherche. Et je signale que justement, si on veut s'informer aussi, il y a une petite brochure qui a été éditée par Nopasaran et Barikata. C'est un hors-série daté de l'hiver 2008-2009. Bon, c'est un peu daté, mais ça vous donne une idée un petit peu de l'antifascisme en Russie, des antifascistes aujourd'hui. Donc c'est édité, donc c'est le hors-série Nopasaran Barikata, hiver 2008-2009. Ça coûte 4€ et je pense que sans problème vous pouvez le trouver soit à la librairie Publico, soit à la librairie Quilombo et dans d'autres bonnes librairies.